VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mardi 24 mai 2022. Avec vous Eric Manila Kiza, voici d'abord le sommaire. Au Mali, 12 mois de pouvoir du colonel Assimi Goïta.
Assimi a vraiment laissé les coups de franche au premier ministre et celui-ci s'est montré très clivant. Il n'a pas réussi à réunir la classe politique, au contraire, il a fait beaucoup de choses pour...
Le journaliste Alexis Calimbri brosse le bilan de la junte malienne. Dans l'est de la RDC, des combats sont signalés au nord de Goma. En Ukraine, la Russie intensifie son offensive contre la dernière poche de résistance de la région de Lugansk. C'est dans l'est. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Dans l'est de la RDC, des combats ont éclaté à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le point avec Jean-Roger Bion.
Des tirs d'armes lourdes ont été entendus très tôt ce matin dans le groupement de Bouumba et ses environs en territoire de Niragongo. Boniface Kagumio, bourgmestre de la commune de Kibumba, a accusé les rebelles du M23 d'être à l'origine de l'attaque dans cette zone où, selon lui, les militaires ne sont pas déployés en grand nombre. Une position de l'armée congolaise a été attaquée, les villageois se sont enfuis, certains prenant la direction de Goma, d'autres allant vers le Rwanda, a déclaré Olivier Nzabonipa, président de la société civile du groupement de Bouamba. Selon lui, plusieurs villages, Rubiranga, Lurimba, Gombera, Tchegera, se sont vidés de leurs habitants. Le Rwanda a affirmé lundi que plusieurs civils avaient été blessés par des tirs de roquettes de soldats congolais à la frontière avec la RDC et a appelé à une enquête urgente sur cet incident. Kinshasa n'a pas réagi à ces accusations. Les Nations Unies ont accusé dimanche le M23 d'avoir délibérément attaqué des casques bleus dans le territoire voisin de Rutshuru.
Au Burkina Faso, 11 civils, dont 3 supplétifs de l'armée, ont été tués dimanche dans le nord du pays au cours d'une attaque de djihadistes présumés contre 2 villages. Le point avec Claire Morisbourg.
Le dimanche 22 mai, les villages de Tiekaledji et de Demiol, dans le département de Gorgadj de la province du Séno, ont fait l'objet d'attaques par des individus armés non identifiés, a affirmé dans un communiqué le gouverneur, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho. Le bilan provisoire fait état de 11 civils tués, dont 3 volontaires pour la défense de la patrie en sigle VDP pour les supplétifs de l'armée. Des opérations de ratissage de la zone se poursuivent. La veille, samedi, 5 soldats ont été tués et 10 autres blessés dans une autre attaque à Bourzanga, dans le centre-nord. Cette attaque a été repoussée d'après l'armée burkinabé qui affirme que 35 terroristes ont été tués et un important lot de matériel saisi. Dès le lendemain, le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, nouvel homme fort du pays, s'est rendu sur place. Enfin jeudi, 11 soldats ont perdu la vie dans l'Est, dont 2 attaques visant des détachements militaires.
Le mouvement du peuple pour le progrès, parti de l'ancien président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, a dénoncé mardi son embastillement en bonne et due forme. Alassane Bala Sakande, président du MPP, a déclaré que M. Kabore n'est ni libre de ses mouvements, ni libre de recevoir certaines personnes, ni libre de communiquer. En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution qui a combattu Alpha Condé pendant des mois, s'inquiète du risque de fuite de l'ancien président à la faveur de son déplacement à l'étranger récemment autorisé par la junte pour des raisons médicales, a dit un de ses avocats mardi. Monsieur Condé a quitté le pays malgré les poursuites engagées début mai contre lui et une trentaine d'anciens hauts responsables pour assassinat, actes de torture ou enlèvement. Les Nations Unies alertent sur de nouveaux flux de déplacés dans la région de Tillaberi, dans l'ouest du Niger, frontalière de Burkina Faso et du Mali. L'ONU met en cause une escalade de la violence provoquée par les actions de djihadistes présumés. Le point avec Abdulrahman Dia.
Selon un rapport du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, les mouvements forcés de population se sont intensifiés au cours des 5 premiers mois de l'année 2022 à cause de l'escalade de la violence des groupes armés qui attaquent les civils et les forces de sécurité. Pour les quatre premiers mois de l'année, 136 incidents ont été notés contre 93 par rapport à la même période en 2021 selon OCHA. 43 civils ont été tués et 22 autres enlevés entre le 1er et le 19 mai dans les départements de Torodi, Tera et Gotee qui ont enregistré une recrudescence des attaques djihadistes, relève l'agence de l'ONU. Depuis avril, près de 35 000 personnes vivant dans des zones frontalières avec le Burkina et le Mali ont été forcées de se déplacer pour s'installer dans des endroits plus sécurisés, ajoute l'agence. Le document précise que les déplacements forcés des populations sont également accentués par des menaces et intimidations contre les fonctionnaires, élus, enseignants et chefs traditionnels. Les attaques djihadistes ont entraîné la fermeture de 800 écoles accueillant plus de 69 400 élèves.
Quatre migrants cherchant à rejoindre clandestinement l'Europe ont péri et trois sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye, a annoncé mardi la marine libyenne qui indique avoir secouru 13 migrants la veille au large d'Omelita. Des dizaines de milliers de migrants originaires d'Afrique subsaharienne, de pays arabes et d'Asie du Sud, cherchant à rejoindre l'Europe par les côtes italiennes, se retrouvent bloqués en Libye, souvent dans des conditions déplorables. Le musée ethnologique de Berlin a annoncé mardi la remise à la Namibie d'une vingtaine d'objets anciens sous forme d'emprunt à durée indéterminée dans le cadre de sa réévaluation des œuvres pillées pendant l'ère coloniale. Les 23 artefacts seront remis vendredi au musée national de Namibie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À l'entame du quatrième mois de la guerre en Ukraine, la Russie se dit bien déterminée à atteindre tous ses objectifs. Moscou intensifie son offensive contre la dernière poche de résistance de la région de Lugansk dans l'Est. Les précisions avec Jacques Aristide.
Les prochaines semaines de guerre seront difficiles, a déclaré hier soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Moscou concentre sa puissance de feu sur le réduit ukrainien de Lugansk, tentant de cerner les deux villes les plus importantes de la région. Retour progressif à la normale, en revanche à Kharkiv, où le métro, qui a des mois durant servi d'abri contre les bombes, a été remis en service aujourd'hui. À Davos, où se déroule une conférence économique mondiale, Kiev appelle les Occidentaux à lui livrer davantage d'armement. Un embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe est par ailleurs possible d'ici quelques jours, a indiqué le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, alors que le sujet ne fait pour l'instant pas l'unanimité au sein de l'Union européenne. En Russie, un projet de loi en vue d'éliminer la limite d'âge concernant les citoyens en âge de s'engager dans l'armée est à l'étude, tandis qu'un tribunal de Moscou a ordonné aujourd'hui le placement en détention par contumace de deux blogueurs accusés de discréditer les troupes russes et leur action en Ukraine.
La Suède et la Finlande, qui ont soumis la semaine dernière leur demande d'adhésion à l'OTAN, seront présentes lors du sommet de l'Alliance fin juin à Madrid, a assuré mardi le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez lors du forum de Davos. Le ministre finlandais des Affaires étrangères a annoncé mardi également à Davos que les deux pays nordiques vont envoyer des délégations à Ankara cette semaine, avec l'espoir de convaincre la Turquie de ne plus s'opposer à leur candidature. Les dirigeants des États-Unis, du Japon, de l'Australie et de l'Inde, regroupés dans l'alliance informelle appelée Quad, ont mis en garde mardi à Tokyo contre tout changement du statu quo par la force, préoccupés par l'activité et l'influence militaire croissante de la Chine en Asie-Pacifique. Le président américain Joe Biden avait affirmé lundi que les États-Unis seraient prêts à utiliser leurs moyens militaires en cas d'invasion de Taïwan par la Chine. Il a cependant précisé mardi que l'ambiguïté stratégique restait inchangée. Cette doctrine américaine consiste à ne reconnaître diplomatiquement la Chine continentale tout en s'engageant à donner à Taïwan les moyens militaires pour se défendre en cas d'invasion. Au Brésil, 11 personnes, dont 10 criminels présumés et une habitante, ont été tuées ce matin lors d'une opération policière dans le nord de Rio de Janeiro. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. C'est le moment de votre actualité économique. C'est la Minute Éco signée Rosine Munezero.
Au Tchad, le principal syndicat appelle à une grève illimitée à partir de demain pour exiger la libération de 6 opposants incarcérés après une manifestation le 14 mai contre la France. L'Union des syndicats du Tchad va observer une grève illimitée sur toute l'étendue du territoire national avec un service minimum dans les hôpitaux. Le Malawi est confronté à une pénurie de devises étrangères. Les réserves de change du pays au premier trimestre s'élèvent à 374,48 millions de dollars, en nette baisse par rapport au dernier trimestre l'an dernier. Le gouvernement table sur des négociations avec le FMI pour obtenir une facilité élargie de crédit. Ici aux États-Unis, la bourse de New York a ouvert dans le rouge mardi à cause des mauvais résultats d'entreprises affectés par l'inflation et la hausse des taux. L'humeur a été assombrie par la chute de 16,6% des ventes de logements neufs en avril, prenant de court les analystes qui tablaient sur un léger repli de 1,7%. Le premier chargement de lait en poudre pour nourrissons importés d'Europe est arrivé aux États-Unis afin d'atténuer la pénurie de lait pour bébés. La formule Nestlé va être d'abord acheminée vers un centre pour un contrôle de qualité avant sa distribution.
Et sans transition, nous passons à la page des sports. Yacouba Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Eh bien, le Kenya et le Zimbabwe sont privés de la CAN 2023.
Oui, ces deux pays dont les fédérations sont suspendues par la FIFA en raison d'interférences gouvernementales ne disputeront pas la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue l'an prochain en Côte d'Ivoire. L'annonce est faite par la Confédération africaine de football. La CAF estime que les deux équipes, Kenya et Zimbabwe, seront considérées perdantes et éliminées de la compétition continentale. Par conséquent, les deux groupes de qualification dans lesquels ils étaient versés seront composés uniquement de 3 équipes, précise le communiqué de l'instance africaine de football. Les deux fédérations ont été suspendues le 24 février avec effet immédiat pour cause d'influence gouvernementale par la FIFA. Le gouvernement kenyan a placé la fédération sous tutelle à la suite d'accusations de détournement de fonds contre son président Nick Mwendawa. Au Zimbabwe, les dirigeants de la fédération ont aussi été limogés pour des irrégularités financières par une instance sportive dépendant du gouvernement. Les éliminatoires de la CAN 2023 commencent le 1er juin prochain.
L'international marocain Nusair Mazraoui rejoint le Bayern Munich.
Oui, le club allemand a officialisé l'arrivée du latéral droit de l'Ajax Amsterdam. L'international marocain de 24 ans s'est engagé jusqu'en 2026, annonce le champion d'Allemagne. Nusair Mazraoui, qui était aussi convoité par le FC Barcelone, selon plusieurs médias, arrive libre au Bayern qui vient de remporter son 10e titre national d'affilée, un record. Mazraoui, qui a disputé 33 matchs avec l'Ajax, toutes compétitions confondues cette année, et a marqué 5 buts, devrait évoluer dans le couloir droit à la place du Français Benjamin Pavard. Celui-ci devrait à l'avenir jouer comme défenseur central, son poste de prédilection.
Nous avons les détails sur le prochain Ballon d'Or. Yacouba, il sera remis le 17 octobre, n'est-ce pas?
L'annonce a été faite par le magazine France Football, organisateur de la cérémonie. La 66e édition du Ballon d'Or 2022, qui change de format cette saison, aura lieu au Théâtre du Châtelet, comme la cérémonie de 2021, ayant sacré l'Argentin Lionel Messi pour la 7e fois et l'Espagnol Alexia Putellas chez les féminines. Les nominés pour le Ballon d'Or masculin et féminin ainsi qu'au trophée Copa du meilleur jeune et Yacine du meilleur gardien seront dévoilés le 12 août. Avec le nouveau changement, le prix portera désormais sur la saison sportive et non sur l'année civile.
Playoff avant de nous quitter, Boston égalise dans la finale de Conférence Est.
Oui, les Celtics ont battu le Heat à domicile 102-82 grâce à 31 points de Jason Tatum. Cette victoire permet à Boston de revenir à hauteur de Miami, 2 victoires partout. Le 5e match de cette série au meilleur des 7 rencontres aura lieu demain mercredi à Miami. À l'ouest, Golden State qui mène la série 3-0 face à Dallas a une première occasion ce soir pour se qualifier pour la finale NBA en 4 succès chez les Mavericks. Les Warriors n'ont plus disputé de finale depuis 2019 et leur défaite contre Toronto, c'était alors leur 5e finale consécutive pour un total de 3 titres remportés en 2015, 2017 et 2018.
C'était les sports avec Yacouba Ouedraogo. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manela Tizlazo, retour avec vous. Place au dossier du jour. Première destination à Bamako au Mali. Cela fait un an que le colonel Assimi Goïta a pris le pouvoir au Mali. Pour un bilan d'étape, Bagassi Koura a joint Alexis Kalembri, directeur du journal Les Échos à Bamako.
Réussi à rompre avec la France, avec la communauté internationale. On a réussi à se fâcher avec la CEDEAO et jusque-là, on n'a pas une paix définie pour la fin de la France. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Ce qui est bien, c'est au moins du point de vue sécuritaire. Tout ce que nous avons pu faire par nous-mêmes, parce que pendant longtemps, la difficulté c'était que les jeunes Bénins se battent pour nous, mais maintenant on sent une volonté des autorités de se battre pour nous-mêmes. Ça, c'est le côté positif. Et oui, on a des éclaircies sur le plan sécuritaire, mais je pense que c'est ce qu'on peut le plus saluer. Le reste est assez difficile parce que, vu le contexte et vu tout ce qui se passe avec les voisins.
Alors, sur le plan sécuritaire, ça va beaucoup mieux, comme vous dites, mais et sur le plan politique?
Sur le plan politique, il y a beaucoup de difficultés. Vous savez, le président Assimi a vraiment laissé les coups de franche au premier ministre. Et celui-ci s'est montré très clivant. Il n'a pas réussi à réunir la classe politique. Au contraire, il a fait beaucoup de choses pour que les gens ne s'entendent pas. Du coup, le dialogue politique est très difficile et les camps sont assez tranchés. Donc je pense que sur ce plan, oui, on a encore du chemin à faire.
Et comment est-ce que le Mali se porte avec l'embargo depuis le 9 janvier?
La situation est difficile en ce sens que, pour voyager dans la sous-région, c'est compliqué. On n'a pas de bonnes relations avec la majorité de nos voisins. Et oui, on est un peu dans l'autarcie, mais on ne se plaint pas parce que oui, on a une vision qu'on veut développer, qu'on veut imposer et c'est ça, on fait avec.
Alors, on a aussi vu des médias occidentaux, notamment RFI et France 24, qui ont été fermés. Certains opposants ont été menacés ou disent avoir été menacés ou d'autres emprisonnés. Est-ce que sur le plan des libertés, il y a un recul?
Je crois qu'on peut parler de recul. Il y a beaucoup de gens qui ont été menacés ou même emprisonnés pour leur opinion. On a vu les restrictions imposées effectivement à RFI et à France 24. On peut parler de restrictions. Et je pense que c'est tout ce qui complique le dialogue parce qu'il faut que les gens puissent se parler franchement et sincèrement. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir notre vision.
Alexis Kalembri, directeur du journal Les Échos à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En RDC, les habitants de la ville de Goma et du territoire de Nyiragongo, en province du Nord Kivu, se souviennent de la dernière éruption volcanique en mai 2022, il y a exactement un an. C'est un reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
Nous sommes à Bourené, une agglomération à cheval entre la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo. Sur la pierre de la lave desséchée depuis l'éruption du volcan de l'an dernier, Jean-Paul Kamaté, d'une soixantaine d'années, surveille ce petit-fils qui réhabilite son abri provisoire qui a été endommagé par la pluie. Cette victime n'a qu'un seul souvenir très amer, la perte de tous ses biens il y a une année exactement.
Je suis déjà trop vieux et avant l'éruption volcanique, j'avais mes moyens suffisants. Actuellement, je n'ai plus rien et je n'ai reçu aucune aide du gouvernement. J'ai été obligé d'aller vendre mon champ dans l'autre village de Loubero pour que je vienne remettre cet abri sur la lave.
Pourtant, les gouverneurs de province et les volcanologues avaient interdit toute construction sur la lave jusqu'à ce qu'ils communiquent de nouveau, mais ces sinistrés n'ont pas attendu le feu vert de l'autorité, vu que leur vie dans des sites de cantonnement ou même dans des familles d'accueil devenait de plus en plus difficile. Claudine Sifa est une revenue sinistrée qui est aussi dans sa parcelle.
Pour que je remette cet abri ici, il m'a fallu prendre un crédit dans notre association de femmes pour le développement. Des sites de cantonnement sont remplis des malins qui ne sont même pas des sinistrés. Nous, les vrais sinistrés, cherchons à tout prix à revenir occuper nos parcelles. Lorsque nous étions dans une famille d'accueil qui était composée de 8 membres et que nous aussi étions à 6, c'était vraiment de la peine. C'est ainsi que j'ai décidé de revenir dans cet abri en bâche, vu qu'il n'y a pas d'autre choix.
Depuis l'éruption du volcan, il y a un an, différentes délégations du gouvernement central sont venues de Kinshasa avec mission de porter assistance aux victimes, mais des lamentations ont été entendues auprès des prétendus bénéficiaires. Le député national élu de Goma, Hubert Fourou-Gouta, ne restant pas indifférent sur la question, évoque le détournement des aides et demande l'ouverture d'une enquête parlementaire.
Nous demandons à ce que la présidence de la République nous laisse venir mener des enquêtes auprès des services qui étaient impliqués dans l'acheminement de cette aide afin de mener un contrôle parlementaire et dégager les responsabilités. Parce que les gens ne peuvent pas continuer à souffrir comme ça pendant que l'État congolais avait déjà déboursé les moyens destinés à leur assistance.
Une année après, le volcan Nyiragongo et tous les autres situés sur la chaîne de montagnes de Virunga reste sous haute surveillance, rassure Kasereka Mainda Célestin, directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma.
Il n'y a aucune inquiétude à ce moment puisque le volcan est dans son activité normale, l'extérieur n'est pas menacé. Ce que je peux rassurer la population, c'est d'abord d'évacuer librement ses occupations. Ce que nous avons vécu, c'est parce que nous ne le vivrons plus. Si jamais nos équipements sont bien gardés, les agents, les chercheurs sont dans de bonnes conditions de travail. Je ne dis pas que les on n'arrivera pas. Avec nous, ça, nous, ça arrivera. Mais à ce moment, avec la technique que nous avons, nous pouvons former cette fois-ci la population.
L'éruption du volcan Nyiragongo l'an dernier avait causé d'énormes dégâts matériels et humains. Zalem Netizaïdi à Goma pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Le président américain Joe Biden a provoqué la colère de Pékin en affirmant lundi que les États-Unis défendraient militairement Taïwan en cas d'invasion par la Chine, avant de revenir en arrière le lendemain et déclarer que l'ambiguïté stratégique qui gouverne la politique taïwanaise de Washington depuis des décennies reste inchangée. Pour une analyse, Claire-Maureen Gibourg a joint Herman Cohen, ancien diplomate américain.
Nous considérons Taïwan et la Chine un pays. C'est pas comme l'Ukraine qui est un pays indépendant. Et nous croyons qu'un jour la Chine et le Taïwan seront réunifiés. Mais pas par la guerre, mais par la réconciliation et par les négociations. Donc, pour le moment, il y a une menace que la Chine voudrait unifier les deux pays par la force. Et nous sommes en train de envoyer des armes et d'autres soutiens à Taïwan. Mais sur la question si la guerre est déclenchée, si la Chine essaie d'envahir la Taïwan, qu'est-ce que les États-Unis vont faire? Et président Biden a dit, on va décider, on va voir. Donc la Chine ne peut pas savoir ce que nous allons faire. Et donc c'est une politique d'ambiguïté.
Alors, dès que le président américain s'est exprimé, le chef du Pentagone a répondu quelques heures à peine après les propos de Joe Biden pour dire que la politique américaine n'a pas changé. Est-ce que ça vous a surpris la rapidité de cette réponse du Pentagone?
Non, c'était nécessaire parce que quand le président Biden a dit, en répondant à une question au Japon, si la Chine attaque Taïwan, est-ce que vous allez défendre, il a dit oui, bien sûr. Donc, ça a envoyé un choc. L'Amérique est prête à faire la guerre contre la Chine, deux puissances nucléaires. Donc, c'était nécessaire pour le Pentagone de le corriger.
Et il faut rappeler bien sûr que Taïwan, c'est aujourd'hui une source indispensable de composants informatiques pour les États-Unis. L'île fabrique 92% des semi-conducteurs. Est-ce que ça a joué aussi dans ce rétro-pédalage ?
Oui, ça a joué aussi. C'est une source très importante des matériels pour la technologie américaine. Mais je vais vous dire une chose. Je crois que la Chine n'a pas d'intérêt à envahir le Taïwan. Parce que, vous savez, beaucoup d'entrepreneurs taïwanais investissent en Chine. Il y a un grand échange commercial entre la Chine et le Taïwan. Et c'est bien pour les deux pays. Donc la Chine, bien sûr, doit dire « Oui, nous sommes un pays, nous avons le droit d'envahir tout ça. » Mais ils n'ont pas l'intérêt à faire ça. Le statu quo est très bien pour les deux côtés.
Herman Cohen, ancien ambassadeur et ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les migrants qui attendent au Mexique se disent déçus par la décision rendue vendredi dernier par un tribunal américain. Cet arrêt prolonge une mesure appelée Title 42, titre 42. La mesure sanitaire en vigueur depuis mars 2020 permet aux autorités américaines d'empêcher des demandeurs d'asile d'entrer aux États-Unis. Mike O'Sullivan s'est rendu à Tijuana. C'est au Mexique. Son reportage relaté par Jacques Aricide.
L'attente continue à Tijuana. Pour ces migrants d'Amérique latine et d'Haïti, elle est interminable. Ana Morazan, venue de Honduras, raconte que son frère a disparu il y a plus de 2 ans dans l'état mexicain de Michoacán, probablement victime d'un groupe de trafiquants. Elle dit avoir reçu des menaces de mort. Accompagnée de ses enfants, elle se sent un peu plus en sécurité dans ce centre d'hébergement. Ana confie que sa maison a été détruite par 2 ouragans qui ont balayé l'un après l'autre le Honduras en novembre 2020. À Tijuana, elle attend l'ouverture de la frontière bloquée par le Title 42, mesure mise en œuvre par la précédente administration américaine pendant la pandémie de Covid-19.
Eh bien moi, mon espoir diminue chaque jour un peu plus parce que le Title 42 n'a toujours pas été révoqué. Nous ne savons pas quand ils vont le révoquer et cela fait 1 an que je suis ici.
Une église pentecôtiste gère ce refuge. Et récemment, il y a eu de bonnes nouvelles. Un nombre de personnes ont obtenu une admission temporaire aux États-Unis sur une base humanitaire. Parmi elles, Yasbeth Marine Mata, une jeune mère mexicaine originaire du Michoacán.
J'étais dans ma maison. C'était l'année dernière. J'étais avec mon fils et personne d'autre dans une maison qui appartenait à son grand-père. C'est là qu'ils l'ont tué.
Il y a 4 ou 5 ans, des trafiquants ont tué son beau-père. L'année dernière, dit-elle, ils sont revenus, armés et l'ont menacé. Cette partie de Tijuana est également en proie à la violence. À proximité, des groupes de trafiquants rivaux sont en guerre. Des fusillades ont éclaté récemment et ont duré pendant 3 jours d'affilée. Des balles sont entrées dans le centre d'hébergement. Un migrant a été touché au cou, mais a survécu. Le refuge héberge 600 migrants en ce moment et s'agrandit pour pouvoir en accueillir 600 autres. Le pasteur Albert Rivera, qui le gère, dit souhaiter que les États-Unis parviendront à régler une bonne fois pour toutes leur politique migratoire.
Nous voulons simplement faire les choses correctement, mais les États-Unis ne se décident pas. Le juge ne se décide pas, le Congrès ne se décide pas, il n'y a pas de volonté politique.
Même si le Title 42 est finalement levé à la frontière, seules les personnes ayant un dossier solide pour l'asile ou l'aide humanitaire pourront entrer et demeurer sur le sol américain.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production et de la rédaction pour la réalisation de ce journal. Lionel Nnamdi-Gaïma assure la mise en onde. Eric Manila à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Excellente soirée à l'écoute de nos programmes sur VOA Afrique et voafrique.com.